A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Et j'ai vraiment une image ultra choquante. Après, j'aime beaucoup les images et les métaphores, mais j'avais vraiment l'impression d'être un baron d'un cartel de drogue qu'on était en train de démanteler. J'étais obligée de faire tomber d'autres gens avec moi et j'attendais ma punition, entre guillemets, ma sanction, tu vois. Donc autant te dire, quand t'as jamais commis une infraction et que tu te retrouves à devoir aller au palais de justice, psychologiquement, moi, le palais de justice, je l'avais vu dans des émissions de Faites Entrer l'accusé, si tu veux.
Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat sans filtre. J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Vous le savez, dans Build Yourself, on parle de tout en toute transparence, que ce soit des bonnes choses, des réussites, des évolutions, comme des erreurs, des échecs, des différentes leçons apprises. Alors, soit par moi, soit par mes invités, parce que j'estime que c'est important de normaliser tous les aspects de l'entrepreneuriat. C'est pas une balade sur un long fleuve tranquille. Loin de là, c'est une véritable expérience de vie. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qui conviendrait à tout le monde, ça c'est certain. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est bien de parler de tout pour que, en tant qu'entrepreneur, on se sente pas seul et qu'on se rende compte que ce qu'on vit parfois, ça arrive à d'autres et c'est pas la fin du monde. C'est pas parce qu'une fois on a une expérience de vie qui nous fait un peu mal que ça doit nous empêcher de continuer d'avancer. Donc aujourd'hui, dans Build Yourself, on va parler de dépôt de bilan. Pour ça, j'ai invité Marine du site Martine Raconte, qui en a connu un, qui en a parlé dans un article que j'ai lu récemment et d'ailleurs qui est très bien écrit. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc Marine, c'est une entrepreneure qui a connu un dépôt de bilan sur sa première entreprise et qui a su rebondir quelques années après. Alors je vous en dis pas trop maintenant parce que vous allez tout découvrir via ses propres mots et j'estime que c'est beaucoup plus intéressant. Mais voilà, je pense que c'est un retour d'expérience qui est très intéressant, qui est très riche et qui nous permet aussi à nous qui n'avons pas connu le dépôt de bilan de savoir comment ça se passe en fait. Potentiellement qu'est-ce qu'on ressent même si c'est pas universel, mais qui nous permet d'avoir une idée de ce que c'est. Mais écoute, bienvenue dans Build Yourself, Marine. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par me dire un peu qui tu es et surtout ce que tu fais?
Je te remercie déjà de me recevoir, Safia. Écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Marine et non pas Martine, même si je joue sur une certaine ambiguïté. Et ce que je fais, je suis actuellement consultante en business plan. Ça veut dire que j'aide des porteurs de projets et des dirigeants d'entreprise à revoir leur stratégie au travers du business plan.
Alors, pourquoi tu as choisi de te spécialiser sur le business plan? Alors, c'est une niche hyper intéressante, parce que personne sait faire un business plan. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ça?
Tout le monde sait faire un business plan. Avec une méthode, franchement, c'est faisable. Voilà, ça paraît un truc énorme. Mais quand on prend le temps de décortiquer ce qu'il faut rechercher et la manière dont il faut le rechercher, tout le monde peut le faire. Et j'ai choisi cette niche parce qu'en fait, j'ai déjà créé une société. J'en suis actuellement donc à la deuxième. Et je me suis rendu compte que c'était la partie qui m'avait le plus plu. En fait, c'est tout ce qui est en amont de réellement le lancement. C'est toute cette partie cette réflexion stratégique qui m'a plu. Et puis, compte tenu du fait que j'étais sans emploi pendant un moment donné de ma vie, après cette première société, je me suis dit que c'était une bonne occasion et je m'étais aussi confrontée à une vraie demande du marché, en fait.
Ouais.
Donc, c'est venu d'une manière assez simple, en fait. J'ai vu qu'il y avait un besoin. Je me suis dit, on va essayer de créer l'offre qui va avec. Et puis, ça a pris un petit peu de temps, puisque c'est quand même, comme tu l'as dit, un marché de niche. J'avais pas trop de modèles sur lesquels m'inspirer. Et puis, ça a fait son petit bout de chemin. Et puis voilà, est arrivée Martine Raconte.
Eh bien, très bien. Et du coup, ça fait 5 ans, on va dire, que tu es entrepreneur et tu as vécu énormément de choses, en tout cas, en ce court laps de temps. Et ouais. Si je t'ai invitée aujourd'hui dans Build Yourself, c'est pour parler un peu de dépôt de bilan. Parce qu'on parle beaucoup de réussite, de success story, mais moi, j'aime bien décomplexer les échecs et en parler parce que c'est inévitable en soi, ça arrive à tout le monde. Donc, est-ce que tu peux me parler de la première entreprise que tu as créée et me dire ce que c'était et pourquoi tu l'avais créée?
Bien sûr, c'est vrai qu'on parle beaucoup des choses qui marchent et malheureusement, il y a une part d'ombre sur ce qui est pas des succès. On appelle ça un échec. Moi, je vois pas forcément ça comme un échec, disons plus comme une leçon et des enseignements. Alors, la première entreprise que j'ai créée, c'était une sellerie équestre. Donc, je vendais de l'équipement pour le cheval et le cavalier. Et pourquoi? Pour une raison extrêmement simple, c'est que je suis cavalière depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. Et c'est ma passion. Voilà, c'est la chose pour laquelle j'aime passer des heures et des heures sans compter. Et il s'avère que j'ai fait une école de commerce. Donc j'ai appris à créer et gérer une société, sauf que je suis partie dans un cursus assez classique pour moi, qui était d'aller dans une agence de communication puisque j'avais déjà travaillé dans la communication. Sauf que c'était une vie avec laquelle j'étais pas du tout alignée et je voulais vraiment allier ma passion à mon travail. Et pour moi, la meilleure solution que j'ai trouvée a été de créer un magasin d'équipement équestre. Donc, sachant qu'en plus, je voulais quitter la région parisienne, ça a été l'occasion parfaite pour moi de m'évader et de suivre un petit peu mes rêves.
Est-ce que c'est pas dur de faire en soi de sa passion? Parce que, ok, j'aime mon job, ça me passionne ce que je fais, mais en soi, c'est pas une chose que j'avais avant et que j'ai pratiqué pendant des années. Est-ce que c'est pas difficile de faire de sa passion, finalement, un boulot, au risque, tu vois, de perdre le plaisir que tu as ou que tu avais peut-être avec l'équitation, etc., et tout ce qui l'entourait?
Si, tout à fait. Mais ça, c'est plus le cas, je pense, quand, par exemple, tu deviens cavalier, où là, pour le coup, t'as des vraies contraintes et t'es vraiment dans le sport même, en fait. Moi, j'avais le côté annexe, j'avais la vente d'équipements et donc, là, toute la journée, je rencontrais des passionnés comme moi. Et au final, moi, j'adorais être acheteuse. C'est ce que j'étais, en fait. J'étais acheteuse pour ma société, j'avais d'autres missions à côté. Mais la première, celle des commandes, mais moi, c'était ma partie préférée. J'ai l'impression de faire un shopping online, mais pour une centaine de personnes. Donc, c'est plutôt chouette de voir les nouvelles collections qui vont arriver, de teaser un peu, etc. Donc non, ça, c'était une partie vraiment chouette. Pour le coup, je regrette pas du tout cette expérience et j'ai pas eu cette notion de dégoût de l'équitation ou voilà, ce côté, quand t'as trop du sport, t'en peux plus.
Ouais. Est-ce que ça a marché dès le début? Est-ce que ça a eu un succès dès que tu l'as ouverte, ta boutique?
Il y avait une vraie demande, ça c'était certain. De toute façon, c'est ce que... Enfin, j'avais fait un business plan, tu te doutes bien, avant d'ouvrir mon premier magasin. Donc, pour le coup, il y avait une demande qui était présente. Avant, en plus, c'était déjà une sellerie, en fait. Moi, j'ai racheté un fonds de commerce. Donc, j'avais déjà une partie du travail qui était, entre guillemets, pré-mâché. Et ça a été un petit peu un de mes choix aussi décisifs. Je m'étais dit que racheter un fonds de commerce serait moins compliqué que créer totalement une sellerie qui n'avait jamais vu le jour, en fait. Et donc, en faisant mon business plan, il y avait une vraie opportunité. Maintenant, je savais pertinemment que le théorique qui est au travers le business plan et la réalité du terrain seraient différentes. Donc, la première année, ça a été de toute façon un petit peu l'année de la découverte, en fait. J'ai pris le temps de m'installer, de rencontrer les gens parce que j'arrivais dans une nouvelle région aussi. Donc, il y avait vraiment ce côté émerveillement où tout est nouveau. T'as la parisienne qui débarque, entre guillemets, à la campagne, enfin, en bord de mer. Moi, j'étais en mode, mais tout change dans ma vie, c'est génial. Donc, t'as pas le temps de te lasser, en fait, pendant ce moment-là. T'es vraiment dans l'euphorie du début. Enfin, voilà, moi, je voulais quitter Paris aussi pour avoir un chien. Je suis allée à la SPA, j'ai adopté. Tu vois, il y avait tout ce côté. Tout ce pourquoi j'avais rêvé, je m'étais battue, arrivait finalement. J'étais mon propre patron. C'était vraiment une belle période. Et en comparant au bout de la première année, en fait, mes chiffres, c'était pas catastrophique, mais j'étais pas dans les clous. Sachant que j'avais pas fait des chiffres, le prévisionnel que j'avais préparé était pas mirobolant. Parfois, on a un petit peu le réflexe de vouloir dire, pour avoir un prêt du banquier, en fait, je vais mettre des bons chiffres, tu vois, j'ai un peu pimpé le truc pour que ce soit très élevé. Et en fait, non, moi, j'étais pas partie du tout dans cette optique-là, puisque sinon, en fait, tu t'éloignes de la réalité et c'est là où tu te prends un mur, concrètement. Et donc, je me suis rendu compte que ça allait pas. Et j'ai essayé de maintenir à flot, vraiment. Enfin, quand t'as une société, tu te bats pour ça, tu y penses jour et nuit. Moi, je travaillais, enfin, je faisais des horaires de dingue, mais je le savais, c'était le jeu quand tu pars en entrepreneuriat. De toute façon, tu sais à quoi t'attendre et tu peux pas t'attendre à ce que tu ne travailles que 10 heures par semaine pour faire extrêmement dans le cliché et gagner le million d'euros par mois, quoi. C'est pas possible. Donc j'ai un petit peu fait en sorte de relever la barre, de mettre tous les efforts de mon côté. Mmh. Et malheureusement, au bout de certains mois, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans mes objectifs. Vraiment, je m'en éloignais et j'ai eu le choix de soit réinjecter l'argent, soit d'arrêter. Et j'ai pris l'option la plus sage, en fait, d'arrêter.
Pendant toute cette période qui a précédé du coup l'arrêt de ton entreprise, tu t'es pas versé de salaire ?
Non, je me versais le minimum, en fait. C'est là où il faut être un petit peu malin, il faut connaître le système français. C'est qu'en fait, tu es obligé de déclarer un montant minimum pour valider tes trimestres auprès de l'URSSAF. D'accord. Et donc, je me versais le strict minimum. Je déclarais le strict minimum pour pouvoir, en fait, valider mes trimestres. Sinon, non, je vivais de revenus. Et alors, à la fin, j'en pouvais plus. Mais au début, je savais que c'était le jeu, entre guillemets. Voilà, je me versais des salaires vraiment juste pour le principe, mais parce que je savais qu'en me lançant au début dans l'entrepreneuriat, je ne pourrais pas directement me verser un SMIC. C'est quelque chose qu'on m'a reproché, d'ailleurs. Lorsque j'ai déposé le bilan, on m'a dit « faut jamais travailler gratuitement ». T'es là « oui, mais entre ce qu'on dit et ce qu'on peut faire, en fait, voilà ». Mais quel que soit même un entrepreneur qui vend ses services, par exemple, il y a toujours un moment où tu commences, c'est chaud, quoi. On va pas se mentir.
Bah ouais, complètement.
Donc non, je me suis pas versé des salaires mirobolants. Quand je pouvais me verser un SMIC, j'étais contente. Et voilà. Donc à la fin, je faisais le strict minimum pour valider mes trimestres.
Donc t'as pris finalement la décision d'arrêter cette entreprise parce que du coup, c'était plus possible. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? Parce que je peux imaginer en soi comment on se sent quand on met un terme à une entreprise qui nous tient à cœur, mais je pense que tes mots seront plus forts que ce que je peux imaginer.
Alors, spoiler alert, c'est pas super réjouissant cette période, je vous le cache pas. C'était pas la meilleure période de ma vie. Maintenant, avec du recul, au bout de 2 ans, je me dis, putain, il fallait le faire, fallait traverser ça. Mais sur le coup, moi, j'étais au fond du gouffre. Ça a commencé déjà un peu avant le dépôt de bilan. Quand je voyais que je m'en sortais pas et que je travaillais pour et que rien ne venait derrière, c'était déjà pas bon. Mais physiquement, j'en étais malade, en fait. Mon corps me disait, arrête. Et puis, c'est le problème quand t'as ta société, en fait, tu penses qu'à ça, dans le sens où, c'est toi qui assumes toutes les responsabilités. Donc, quand tu rentres chez toi, tu rentres avec tes problèmes. Et en fait, était en boucle dans ma tête. J'en dormais pratiquement plus la nuit, alors que je suis une grosse dormeuse. J'étais malade. J'ai perdu, je pense, peut-être pas une dizaine de kilos, mais presque. Et j'étais pas bien. J'étais pas bien. À côté de ça, j'ai eu des problèmes perso dans le sens où, mon cheval s'est blessé. Il a failli rester, donc je perdais mon travail, enfin, ou du moins, je m'épanouissais plus du tout dans mon travail. Mon cheval, qui était ma passion, était sur le point peut-être d'y rester potentiellement. Donc, autant te dire que je n'avais plus rien. Et il y a une chose aussi, c'est que on se définit beaucoup par son travail. C'est-à-dire que quand tu te présentes à quelqu'un, tu dis bonjour, je suis Safia, puis tu donnes ton boulot. Moi, pareil, bonjour, je suis Marine, je suis consultante en business plan. Et je devais, d'ailleurs, je me souviens d'une période où, juste avant de fermer, l'été, je devais aller au mariage d'une de mes meilleures amies. Et en fait, je l'ai appelé en disant « je peux pas venir, je suis désolée, mais là, je peux plus, en fait. » Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais arriver, je pleure tout le temps. » Déjà, pour commencer, donc déjà, c'est un peu en signe. Hein, tu vois, quand tu commences à pleurer un peu pour rien, t'es là, bon, soit t'as tes règles, soit sinon, c'est que quand c'est tout le mois, c'est un peu chelou quand même. Et je lui ai dit « Tu veux dire quoi? Bonjour, je suis Marine, j'ai plus de passion, j'ai plus de boulot. Allez, bisous, enchantée de vous rencontrer à un mariage. » Tu vois, c'était un petit peu compliqué. On va dire qu'on a connu des périodes où j'étais plus avenante. Et quand j'ai décidé donc officiellement de déposer le bilan, mes parents m'ont beaucoup aidée là-dedans. Et j'encourage toutes les personnes qui passent par là à s'entourer, c'est super important. C'est simple, c'est ma mère qui m'a donné le coup près, qui m'a dit « Ok, vu la situation, Marine, c'est terminé, tu retournes à la sellerie, tu prends les papiers de banque et c'est rideau. Je me souviendrai de cette phrase toute ma vie, je pense. Et c'est rideau. C'est genre... Ah ouais, et là, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré, j'ai envie de dire, sans m'arrêter. J'en ai fait un blackout d'un week-end, quand même.
Ah ouais?
Ah ouais, ouais, blackout total. Je me revois en train de pleurer sur le canapé, là. Et je me revois à mon bureau en train de remplir un ou deux papiers. Et c'est tout. Je ne me souviens plus de rien. C'est assez incroyable que mon corps ait lâché prise à ce point-là, quoi. Donc non, globalement, j'étais pas très, très bien. Et puis, la chose étant aussi, c'est quand tu déposes le bilan, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, tu dois, en fait, fermer ton entreprise, mais faut pas que ça sache. Donc, c'est-à-dire que j'étais obligée de mentir à des personnes aussi, contre ma volonté, mais il fallait pas que ça sache. Donc, en fait, on dit, ah oui, mais ta boîte, elle est fermée. À la base, je fermais parce que j'avais pris quelques jours pour voir ma famille, mes parents, en l'occurrence, qui venaient me voir, mes parents qui étaient au courant de pratiquement rien. Et c'est ma mère, quand elle m'a vue physiquement, qui m'a dit, genre, il faut en parler, là, il y a un problème. Et là, j'ai dit, oui, en fait, il y a un problème. Et j'en suis venue à lui dire ce qu'il y avait. Et donc, tu t'en rajoutes après les gens que tu croises. T'es là, non, mais je profite de ma famille, en fait, encore un peu plus. Voilà. Et ça, c'est horrible aussi, devoir mentir aux gens. Déjà, t'es pas bien, t'en rajoutes une couche. Enfin, voilà. Quand t'es un peu droite dans tes bottes, tu le vis quand même assez mal, quoi.
Ouais, j'imagine. Et du coup, c'est quoi la procédure? Tu fermes ta boutique, tu dois remplir des documents, t'as un rendez-vous au tribunal, comment ça se passe?
Exactement. En fait, t'as un dossier à remplir que tu récupères auprès du tribunal de commerce de ta ville. Mmh. Et c'est un document dans lequel, en fait, tu vas expliquer toutes tes sorties d'argent et pourquoi, en fait, tu veux arrêter. Alors, tu as le choix quand tu déposes le bilan, soit de pouvoir arrêter définitivement, c'est-à-dire qu'on décide que ton entreprise est plus du tout solvable et c'est fini, soit il y a une autre possibilité, c'est que le juge décrète que ton entreprise peut continuer à vivre à partir du moment où on annule ses dettes. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, D'accord. Il annule tes dettes et tu repars entre guillemets à zéro avec un nouveau bilan. Et dans ce cas-là, bon, je simplifie, mais je suis pas juriste, je pense que tu seras plus à même que moi à décortiquer les textes. Mais en gros, on annule toutes tes dettes, tout ton passif, et tu recommences sur, entre guillemets, une nouvelle boîte, quoi. Et donc, dans ce document-là, tu dois dire tous les frais que t'as, toutes tes factures non réglées. Et en fait, la chose assez horrible pour moi, là où je l'ai extrêmement mal vécu, c'est que moi, il me restait un tout petit peu de trésorerie, mais pas suffisamment pour couvrir le mois d'après. C'était terminé là, concrètement. Et je m'étais dit, le reste de trésorerie qui me reste, je règle les factures fournisseurs où je suis à paiement 30 jours, 5 mois, je les règle maintenant. Comme ça, tout le monde a son argent et la seule coupable, entre guillemets, c'est moi. C'est mon problème, mes responsabilités. Donc, concrètement, je suis dans la merde toute seule. Voilà, pour simplifier de manière extrêmement vulgaire. Quand j'ai présenté mon dossier au tribunal de commerce, pour être honnête, c'est ma mère qui l'a fait. Moi, j'étais pas en état de me déplacer. La personne lui a gentiment dit, mais en fait, il faut des dettes fournisseurs pour que le dossier soit validé. Là, normalement, elle avait même pas à nous le dire, ça reste entre nous, entre guillemets. Mais non, ça se passe pas comme ça, madame, en fait. Il faut des dettes fournisseurs. Donc là, si tu veux, ma mère qui revient, qui me dit, alors en fait, ça va pas se passer comme ça, il faut que t'aies des dettes. Alors là, ça a été un deuxième coup de couteau, quoi. Il fallait, en plus, que j'entraîne dans ma chute des gens avec moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé tous mes fournisseurs français et les plus grosses factures, et j'ai laissé une multitude de toutes petites factures pour des montants moindres à des gros groupes qui ont plus ou moins un budget fait pour ça, en fait, ou disons que ça aurait pas eu un gros impact sur leur activité, là où une petite boîte française, une facture de 1000 euros, pour elle, c'est vraiment un gars gagné, quoi. Donc, en fait, je m'en suis plus ou moins, j'ai sauvé les meubles comme ça, on va dire. Et donc, après, ton dossier, tu le déposes au tribunal de commerce, et puis tu passes devant une commission qui évalue si jamais ton entreprise, ça vaut le coup de l'arrêter ou non. Je pense aussi qu'ils doivent vérifier si t'as bien fait les choses dans les règles, parce que si c'est pas le cas, tu peux être bien évidemment poursuivi. Et ensuite, t'as un jugement qui est rendu. Donc en l'occurrence, dans mon cas, c'était très bien, vous arrêtez la société, c'est terminé. Et après, tu règles ton dossier avec un notaire, en fait, qui se charge justement de dire à tes fournisseurs, ne serait-ce que, par exemple, ton fournisseur d'accès à Internet, oui, mais il y a tant de factures qui sont pas réglées, mais la société est en dépôt de bilan, donc, en fait, soit vous vous asseyez dessus, soit selon si t'as du matériel ou pas. Moi, en l'occurrence, c'était mon cas, j'avais un stock qui a été vendu. Avec l'argent de la vente, on règle quelques fournisseurs et les autres, on leur explique qu'en fait, c'est une procédure, donc ça se termine maintenant. Voilà, en gros, concrètement, comment ça se passe. Et la chose un petit peu violente, moi, en l'occurrence, D'accord. dans mon cas, c'est que le tribunal de commerce se trouve au palais de justice. Donc, autant te dire, quand t'as jamais commis une infraction et que tu te retrouves à devoir aller au palais de justice, psychologiquement, moi, le palais de justice, je l'avais vu dans des émissions de Faites Entrer l'Accusé, si tu veux. Et là, on te dit, tu vas devoir y aller. Ouais. Et t'es là, genre, je m'attendais à ce que je rentre, il y a la petite musique de New York Unité Spéciale ou un truc dans le genre qui me tombe dessus. Et t'attends sur ton banc. Et j'ai vraiment une image ultra choquante. Mais après, j'aime beaucoup les images et les métaphores. Mais j'avais vraiment l'impression d'être un baron d'un cartel de drogue qu'on était en train de démanteler. J'étais obligée de faire tomber d'autres gens avec moi. Et j'attendais ma punition, entre guillemets, ma sanction, tu vois. Et t'étais là, tu voyais les avocats et tout. T'es genre, bonjour. Et je voyais ça vraiment comme, ouais, c'est ça, un défilé. Bonjour, vous êtes conviés au défilé, au palais de justice de Saint-Malo, quoi.
Ça a pris combien de temps, du coup, sur cette période de dépôt de bilan, en fait? Ça dure combien de temps? En moyenne, on va dire, parce que c'est ton expérience personnelle.
Ouais, mais nous, on a dû déposer le dossier, je crois, en juillet. Ça a été acté en septembre, il me semble. Ouais, ça a pris, je pense, un mois et demi, je crois. Et nous, sachant qu'on a essayé de faire les choses très vite, donc on voulait pas que ça traîne. J'étais déjà tellement mal, en fait, qu'on a fait les choses super vite et il fallait que ça... Voilà. Il fallait pas attendre, quoi.
Je trouve déjà ça un peu long, mais bon.
Ouais, oui, un peu, en effet, mais... Non, mais... Alors, après, c'est vraiment des dates très approximatives. Il faudrait que je retrouve les papiers, sinon je pourrais te dire précisément. Mais dans mon souvenir... Bah, entre le moment où tu déposes le dossier et le moment où tu es convié, je pense qu'il doit se passer 3 semaines, pratiquement. Le temps qu'ils le reçoivent, qu'ils vérifient qu'il y a bien toutes les pièces, etc. Ouais. Mais je sais que... Ouais, ça a été acté en septembre, ça c'est sûr, le jour de l'anniversaire de mon père, d'ailleurs. Allez, bisous. 2 jours avant le mien, d'ailleurs. Bisous.
Merci.
Allez. C'est ça, t'es content. Et puis après, bah, c'est l'administration française, donc le temps de recevoir les papiers, ouais, etc. C'est que des recommandés que tu reçois chez toi, le temps que on t'attribue, entre guillemets, à notaire, prendre rendez-vous avec le notaire. Enfin, voilà, c'est des trucs qui prennent un petit peu de temps, mais à partir déjà du moment où c'est acté... auprès d'un tribunal, déjà, tu sais que toi, bon, il reste des choses à régler de toute façon, mais t'es déjà débarrassé d'un poids, entre guillemets.
Ouais, ça t'a soulagé de déposer, ouais, le bilan de ton entreprise?
Oui, bah, pas sur le coup, hein, parce que sur le, oui, coup, tu vis quand même ça comme un échec, mais déjà, le fait de pouvoir le dire publiquement, donc c'est bête, mais moi, j'ai publié un post sur Facebook, tout simplement, donc la sellerie était fermée définitivement. Déjà, rien que ça, ça m'a en partie soulagée. J'avais le droit d'arrêter de mentir aux gens.
Ouais.
Et ça faisait du bien. Et c'est là où ça fait le tri aussi. T'as vu les gens, enfin, j'ai vu les gens qui m'ont envoyé des messages gentils, plein de compassion, plein de gentillesse. Et ça, sur le coup, quand t'es déjà au fond du gouffre, ça te fait plaisir. On va, ouais, pas se mentir, c'est des petits messages qui te coûtent pas grand-chose et qui font du bien. Après, le fait d'avoir acté, oui, j'étais contente. J'étais soulagée d'un nouveau poids parce que on aurait pu me dire non, en fait, on annule vos dettes et vous continuez.
Ouais.
Ça, je m'en serais pas sortie, je le sais pertinemment. Enfin, on a vu un contexte ultra difficile et l'avenir et le futur m'a donné raison puisque par la suite, dans le coin, il y a une sellerie qui a arrêté son lieu physique et il y en a une autre qui a fermé. Bon, après, il y a eu les gilets jaunes, etc.
Ouais.
Donc, concrètement, ça a été, enfin, ces 2 dernières années ont été super compliquées pour les commerces et les commerces de proximité, d'autant plus quand t'es une niche. Donc au final, c'est pas un choix que je regrette. Sur le coup, ça a été très dur à vivre, malgré le fait que c'était mon propre choix. C'est-à-dire que personne m'a mis un couteau sur la gorge en t'arrêtes. Mes parents, ils savaient que je voulais arrêter. En fait, c'était, ouais, la meilleure solution. Ils m'ont juste donné le courage de dire en fait c'est terminé maintenant. Tu te rends suffisamment malade, arrête. Parce que j'ai essayé coûte que coûte. Hein, mais
c'est
voilà,
normal. Hein.
Sa boîte, on... voilà.
C'est normal. Quelle leçon t'as tirée de cette expérience? Ça, c'est la première question que je me suis posée quand j'ai dit je vais discuter avec Marine. Je me suis dit, il faut que je lui demande qu'est-ce qu'elle a tiré finalement de tout ça.
Mais ça a été super riche et je regrette pas du tout cette expérience. Sinon, je serais pas là en fait aujourd'hui. Je serais pas en train de faire ce que je fais. Je serais probablement toujours à Paris dans une agence à 2 doigts du burn-out. Donc au final, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Mais c'est vrai que j'ai pu, grâce à cette expérience, déjà dans un premier temps, j'ai appris à me connaître moi. Voilà, parce que l'entrepreneuriat, oui, on a beau savoir ce que c'est, l'étudier à l'école, c'est jamais la même chose sur le terrain. Et puis surtout, on le vit différemment. C'est-à-dire que toi, par exemple, ton expérience entrepreneuriale, on va peut-être pas du tout la vivre de la même manière.
Complètement.
Donc la première chose, c'est déjà j'ai beaucoup appris sur moi. Je savais que j'avais une grosse capacité à travailler, ça me l'a confirmé. Quand tu travailles au début 6 jours et demi par semaine, faut quand même être bien accroché. Et c'était mon cas, voilà. Donc déjà, quand tu sais ça, tu te dis bon, écoute, même si j'ai plus de boulot, je pourrais en trouver un et je saurais que je pourrais travailler. Voilà. Sur la capacité aussi à gérer une entreprise, faire des tableaux de bord. En fait, j'ai mis en application tout ce que j'avais appris en école, mais il y a ce côté, voilà, tu sors du théorique et tu rentres dans le pratique. Et t'as beau apprendre à faire des tableaux de bord, à gérer une société, quand t'es le moment venu, c'est différent aussi. J'ai également appris à gérer l'échec. Voilà, tout simplement, ouais. À traverser cette phase difficile, puisque l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais au début, vraiment, mon dépôt de bilan, c'est quelque chose que j'ai mal vécu. J'en avais honte. Et je ressentais de la part de certaines personnes que cette honte était justifiée, en fait. Dans le sens où, vous avez échoué, vous avez raté. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit, si vous m'aviez demandé, moi, j'aurais dit de pas l'ouvrir, votre magasin. T'es là, mais en fait, t'as rien demandé. C'est ça. Ouais. Et t'as des gens qui, parfois, te sortent des remarques, mais des pépites. Hein. Alors, c'est bien, parce qu'au moins, ça reste, et ça, tu t'endurcis, mais c'est comme tout. Au début, tu le prends quand même assez mal.
Bah oui.
Et en fait, je me suis rendu compte qu'il suffisait pour ça de changer ma manière de percevoir, en fait, ces événements, tout simplement. Là où quelqu'un y voyait un échec, moi, c'était pas mon cas. Et au final, ça m'a quand même pris 2 ans hein, pour changer cette manière de voir les choses. Je savais que c'était un avantage, entre guillemets, sur mon CV parce que j'avais quand même monté une société, j'avais fait toutes les démarches administratives. Donc, quand tu sais à quoi correspond une création d'entreprise et que tu rencontres un créateur d'entreprise, moi, j'ai tendance à dire déjà félicitations pour tout ce que tu as fait. Voilà, déjà. Quand tu fais les choses bien, il y a quand même vachement de taf derrière. Et surtout, ce que j'ai appris maintenant, c'est la résilience aussi. Et ça, c'était un truc qui m'était jamais venu à l'esprit, mais pendant toutes ces périodes, et c'est seulement cette année, là, vraiment cet été où j'ai eu un déclic, en fait, alors que j'avais déjà lancé ma boîte, j'étais repartie dans le truc, où je me suis dit, mais en fait, t'as fait preuve de résilience. Et alors, pour ceux et celles qui ne le savent pas, je me permets de lire Monsieur Boris Cyrulnik, hein, qui définit très bien la résilience, ce n'est pas de moi, mais il dit « La résilience désigne un processus d'évolution, une adaptation suivie d'une transformation. » Et sur le coup, quand tu déposes le bilan de ta boîte, t'as la tête dans le guidon, mais tu ne vois que ça. Tu te dis « Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ? Comment j'aurais pu améliorer ci, améliorer ça ? Est-ce que si j'avais fait ça, ça serait pas mieux allé ?» Et en fait, maintenant, je me dis « Mais t'aurais pu tout essayer, de toute façon, au bout d'un moment. » C'est pas une décision que t'as prise du jour au lendemain. Donc à partir du moment où ça allait pas, ça a été une longue période, t'as pas l'éclair de génie qui serait venu et qui aurait changé la chose. Maintenant, je me dis, j'ai fait vraiment preuve de résilience, en fait. J'ai assumé ça, j'en ai fait mon processus de deuil et je suis repartie sur autre chose et j'ai réussi à en faire une vraie force.
Et du coup, là, ça fait... tu l'as créé cette année, ton entreprise, donc t'as pris une pause de 2 ans, finalement.
Ouais, exactement. J'ai pris une pause de 2 ans. Déjà, j'ai pris 6 mois pour m'en remettre, hein. Oui. Parce que voilà, ça en est suivi quand même une dépression. J'étais pas bien du tout. Donc il a fallu me retaper. Et après, étonnamment, je voulais pas repartir dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai pris un job alimentaire, en fait. Ouais, je suis retournée dans le salariat. Voilà, en me disant, écoute, tu sais quoi? Et pour le coup, mes parents étaient très contents. Ils me disent, vas-y, prends la sécurité maintenant. Ouais. Voilà, maintenant que tu vas un peu mieux, prends le contrat. Et comme il fallait bosser assez vite, puisqu'au bout d'un moment, t'as les factures qui s'entassent. J'ai pris un travail alimentaire pas très loin de chez moi. Donc, moi, j'habite à Saint-Malo du Beach City, donc station balnéaire. Et il y a pas mal d'hôtels. Donc, j'ai trouvé très rapidement un job en tant que serveuse de petit déjeuner dans un hôtel du coin. Et ça m'allait très bien. C'est-à-dire que j'ai pris ce job parce que... Alors, entre nous, j'aime pas le service. Je déteste ça. Mais je voulais un job où j'avais extrêmement peu de responsabilités.
Ouais.
Dans le sens où je faisais mon travail, je savais que je le ferais bien même si c'est, enfin le service c'est quand même physique, hein. Je le savais parce que quand tu bosses, voilà, je t'ai dit 6 jours et demi par semaine, puis après 6 jours, tu sais que tu t'es une travailleuse, donc là-dessus, je savais que j'allais pouvoir travailler, mais je voulais qu'à partir du moment où je quitte l'hôtel, je ne parle plus de mon boulot, je ne ramène plus de problèmes, je ne ramène plus de, voilà, et s'il y avait un problème, j'avais un N+1, de toute façon, c'était pas, entre guillemets, à moi d'assumer toutes les charges, évidemment, c'est pas une raison pour mal faire son boulot, j'entends, je suis quelqu'un qui fait bien son boulot, et je voulais surtout pas assumer de responsabilité, mais je les fuyais, c'est-à-dire que quand on me demandait, mais tu peux faire ça, un truc où je voyais ça se profiler un peu sur du long terme, enfin une mission un peu qui était pas prévue dans ma fiche de paye, j'ai dit, pas de souci, mais faut payer pour ça, alors que je suis pas du tout quelqu'un qui s'est obsédé par l'argent. Mais j'étais à un stade où je prends des responsabilités, très bien, faut me dédommager.
Oui.
C'est-à-dire si mon aventure entrepreneuriale d'avant m'avait quand même bien marquée.
Complètement, mais ça m'étonne pas au final. C'est normal, quoi.
C'est ça, ça laissait séquelles et puis ça faisait partie du processus où, voilà, mon processus de deuil, où je voulais plus assumer ce genre de choses. Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, oh, quand même, c'était bien l'entrepreneuriat. C'est comme tout, tu pèses les avantages et les inconvénients. Et puis au bout d'un moment, c'est là où je me suis rappelé qu'en fait, lorsque j'avais créé ma première société Je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de personnes qui proposaient des accompagnements personnalisés. Je m'étais tournée vers la CCI à l'époque pour avoir l'avis d'un professionnel sur mon projet. Mais la CCI, ils ont beaucoup de travail, ils sont débordés. Et je m'étais dit, ça serait bien d'avoir quelqu'un qui est passé par là, donc qui est capable de m'aider, qui est capable de raccourcir les délais, parce qu'on le sait tous, quand on est entrepreneur, on a des pics d'hyper-productivité, on est super inspiré, et puis ça retombe comme un soufflet. Donc, quelqu'un qui soit là pendant cette période-là, qui accessoirement aussi m'aide à faire remonter le soufflet quand c'est un peu compliqué, et potentiellement puisse être là pour après, si ça se passe pas bien également aussi. C'est là où je me suis dit, c'est vrai que sur le coup, je m'étais rendu compte qu'il y avait un besoin. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi, t'as un job alimentaire, fais-le en parallèle. Donc au début, j'avais commencé à faire ça en parallèle. Ça me prenait un petit peu de temps, donc je le faisais sans le faire. Et puis jusqu'au moment où, en fait, j'ai dit, allez, c'est parti, quoi. C'est maintenant où j'avais, je voulais pas rester dans le service. Et je me suis dit, écoute, tu t'es bien retapé. Le moral allait mieux, je me suis dit, allez, je vais trop bien. On va se remettre un petit coup derrière les oreilles.
Est-ce que la Covid t'a un peu aidé à te lancer, du coup, à ton compte?
Non, la Covid ne m'a pas aidé, sachant que je me suis lancée en février. Au contraire, ça m'a même un peu coupé l'herbe sur le pied initialement, parce que je commençais. Donc, tu vois, je mettais en place des actions. Et là, mais non, on va se confiner. Et tout le monde a dit, OK, on met tout en stand-by. Donc, en fait, moi, mes prospects, mes futures cibles, clairement, c'était pas l'occasion, le moment pour elles de lancer leur boîte. Donc, sur le coup, j'ai dit, on va essayer de s'adapter. Mon créneau, de toute façon, c'est on s'adapte. Donc, j'en ai profité pour m'offrir de la visibilité au travers de webinaires, j'ai animé des ateliers comme ça à distance. Ce qui m'a permis un peu de me roder, en fait, en me disant, au cas où ça continue, dans tous les cas, c'est une expérience à prendre à nouveau, et puis c'est des trucs qui me terrifiaient. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, ça te terrifie? Vas-y. Si t'as peur, c'est le moment ou jamais. Donc, je me suis offerte de la visibilité, mais c'est sûr que non, j'avais aucun contrat. Par contre, la chose que je me suis dit, c'est le moment ou jamais de semer des petites graines pour pouvoir récolter les fruits quand il y aura plus de confinement. Et en fait, c'est maintenant, ce mois-ci, où je vois que tout bouge. Tout bouge, là où, voilà, on a des pics de haut, de bas. Moi, pendant le confinement, c'était middle. Je me suis dit, l'été, on va faire en sorte que ça reparte. Et là, c'est en train de repartir et c'est chouette. Je vois la journée passer. Le matin, je me lève. J'ai l'impression qu'il y a des petits oiseaux qui chantent dans ma chambre. J'ai l'impression d'être une princesse Disney, si tu veux, en jogging. Comme ça, là, je suis contente. Donc non, ça m'a pas trop aidée. Par contre, je pense que potentiellement, ça pourra m'aider par la suite. Dans le sens où beaucoup de personnes ont réalisé qu'elles n'étaient peut-être pas très satisfaites dans leur travail. Et ça a peut-être incité à la création d'entreprise. En tout cas, quand je regarde les chiffres de l'INSEE, le pourcentage de création de micro-entreprises ne diminue pas. Donc ça, c'est plutôt de bon augure pour moi.
Carrément. Carrément. Mais du coup, toi qui as eu un business physique et un business en ligne, c'est quoi la plus grosse différence pour toi, même si c'est pas vraiment comparable parce que c'est pas la même chose? Mais comment tu vois la différence entre les deux, peut-être dans tes process ou dans la gestion, etc.
Il y a à la fois plein de trucs similaires, à la fois plein de trucs différents. C'est ça qui est très drôle. Alors il y a des similarités dans mon organisation, par exemple. Je m'organise, je reste toujours quelqu'un d'organisé. Je fais toujours des tableaux de bord. J'utilise toujours des outils, ce qui était déjà le cas dans ma sellerie. Mais la vraie différence, en fait, c'est que j'ai très peu de charges pour commencer. C'est l'avantage de la micro-entreprise. Hein. Quand tu n'as pas de chiffre d'affaires, ce qui était le cas, moi, pendant le Covid, tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu ne déclares rien, tu touches rien, donc tu ne déclares rien, donc tu n'as pas de charge. Et c'est surtout que je n'ai pas de stock. Là où moi, j'avais un stock physique, où j'avais besoin d'une vraie trésorerie, là, ma trésorerie dont j'ai besoin, c'est pour mon salaire, à la limite pour mon abonnement Canva, et encore, ça va, c'est pas très cher, tu vois.
Ça va, ouais.
Voilà, globalement, c'est cool. Et c'est ça, en fait, c'est surtout le fait de pas avoir de stock, c'est pour ça. Moi, ma plus grosse pression, ça a été d'annoncer à mes parents, je vais repartir dans l'entrepreneuriat. Si tu veux, il m'avait ramassé la petite cuillère, il m'avait porté, il m'appelait tous les jours pendant un moment. Je pense qu'ils étaient ravagés de voir leur fille comme ça. Et là, tu leur dis, en fait, je repars dans la gueule du loup. C'était vrai. Et là, ma mère avait, pardon? Je sentais bien, le système ne répond plus. Et en fait, je lui ai expliqué ce que c'est qu'une micro-entreprise, elle savait pas, et je lui ai expliqué, j'ai travaillé, donc je vais avoir aussi le chômage, ça va me permettre quand même de vivre, si jamais ça fonctionne pas tout de suite. Et surtout, je lui ai expliqué que j'avais pas de charge. Et là, elle m'a dit, ah oui, c'est bien la micro-entreprise. Elle voyait que j'avais réfléchi à mon truc. Mes parents, Je suis arrivée, je leur ai présenté mon business plan, comme tu parlais à un banquier en fait, parce que en même temps, il m'avait, je t'ai dit, il m'avait ramassé dans un état où je voulais que eux aussi soient sûrs de mon truc. Et quand j'aurais présenté, voilà, j'aurais fait une belle présentation, je leur ai expliqué quels étaient mes cibles, mon positionnement, comment mon expérience, justement, tout ça, ça allait pouvoir aider les gens.
Ouais.
Et là, ils m'ont dit, bon, pas d'accord, bonne chance. Mais ça a été une vraie pression, ça. Je me souviens, j'ai fait ça l'année dernière, là, décembre 2019. J'étais pas bien à Noël. Hein. Je suis arrivée, j'étais, j'ai un truc à vous dire. C'est là. Je me suis dit, oh, merci, ça y est, elle part à l'étranger. Bah, la Portugaise, elle a rencontré un mec, elle déménage et tout. Non, je repars dans l'entrepreneuriat. Oh, elle repart dans l'entrepreneuriat. Non. C'était un peu ça, quoi. Et en fait, ils l'ont très bien pris. Et dans tous les cas, même si de toute façon, potentiellement, ils auraient pu mal prendre, vous êtes, enfin, je suis, et je pense aux gens qui se lancent et qui ont peur du regard des autres, vous êtes les seuls décisionnaires, de toute façon. Je savais que je le faisais, c'était une réflexion vraiment que j'avais mûrie, j'avais fait un business plan qui prouvait que théoriquement, il y avait une vraie demande. Je m'étais confrontée à la demande aussi. Donc, en fait, voilà, j'étais prête à partir là-dedans. J'aurais préféré avoir l'approbation de mes parents, c'est certain, mon entourage. Mais dans tous les cas, je serais partie là-dedans.
Et l'équitation aujourd'hui, t'en fais toujours, t'aimes toujours autant?
Ouais, j'aime toujours autant. Alors, l'avantage d'être son propre patron, c'est que je peux aller monter à cheval quand je veux. Ça, c'est plutôt chouette. Donc, je vais toujours monter à cheval le matin. Mon cheval se porte très bien, il s'est super bien remis. Et je peux toujours assouvir ma passion comme je l'entends. Et ça, c'est vraiment un vrai luxe, quoi. Quand je fais... Bon, d'ailleurs, je nargue un peu les gens en story parfois avec les petites véodos de poney à la plage. Mais ça, c'est... Ouais, c'est essentiel pour mon équilibre. Et je ne peux pas renoncer à ça. Donc, ce qui aurait été quand même compliqué dans un travail où j'aurais été salariée. Parce que, bonjour, en fait, je ne serai pas là ce matin parce que je vais faire du poney n'est pas une excuse valable.
Dommage.
C'est ça. J'aurais bien aimé pourtant.
Est-ce que tu as un conseil à donner aux auditrices de Build Yourself pour clôturer cet échange?
J'en aurais plusieurs,
mais
vas-y. Ça va être compliqué.
Non, mais tu peux en choisir plusieurs.
Alors, le premier, c'est lancez-vous. Même si ça fait peur, même si voilà, mon discours n'a pas été super réjouissant parce que un dépôt de bilan, ça l'est jamais. Lancez-vous parce que de toute façon, tant qu'on ne fait pas, on ne sait pas. Voilà, le plus gros échec, c'est de ne pas essayer. J'aime beaucoup cette phrase parce que ça sera la première cause d'échec, c'est de rien faire. En fait, il y aura toujours des donneurs de leçons et des gens pour juger. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on a envie de s'arrêter sur ce qu'ils disent? Voilà. Libre à chacun de choisir, hein, mais donc le premier, ça serait de se lancer. Le deuxième, ça serait d'avancer, même si ça vous fait peur. Parce que justement, c'est en sortant de votre zone de confort et en avançant que vous allez pouvoir développer des choses extraordinaires, vous surprendre, je pense, vous-même, et découvrir des choses que vous aimez. Peut-être que vous aimez moins, mais au moins, vous saurez où vous allez. Donc vraiment, ne pas s'arrêter à la peur et renouveler chaque jour quelque chose qui vous fait peur pour que ça devienne quelque chose de lambda. Et enfin, bien vous entourer. C'est essentiel quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien, j'entends par là, des coachs, des accompagnateurs, voilà, d'un point de vue business, mais aussi des gens qui seront dans votre cercle direct de famille, d'amis et qui auront une implication indirecte sur votre business de par leur mentalité en fait. Quelqu'un qui te répète que c'est pas assez bien ou que c'est dangereux entre guillemets de se lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà, ce genre de personnes sont toxiques pour votre business et pour votre santé mentale en fait. Et alors qu'on s'en rend pas toujours compte et il faut rester... si c'est vos parents, si c'est votre frère, votre sœur, je vous dis pas de couper les ponts, hein. Mais c'est-à-dire de réussir à dissocier ce que cette personne dit. Et généralement, ils le parlent pour eux, en fait. C'est parce que eux se verraient pas faire ça et que ça leur fait peur, en fait. Donc, c'est vraiment de distinguer ça et de réussir à ce que ça n'impacte pas votre entreprise, en fait. Voilà, ça serait les trois plus gros, je pense, conseils que je pourrais donner à des personnes qui se lancent aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup, Marine.
Mais de rien, Safia.
Je suis vraiment très reconnaissante que Marine soit intervenue dans cet épisode, qu'elle nous ait parlé de ses difficultés, mais aussi du fait qu'elle ait remonté la pente et que finalement aujourd'hui elle est très épanouie dans ce qu'elle fait. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, C'est vrai qu'on on peut facilement déjà s'isoler, mais on peut aussi rencontrer des difficultés et tout remettre en question, penser que ça n'arrive qu'à nous et que tout est parfait pour les autres, alors que c'est absolument pas le cas. Donc je suis contente d'avoir des personnes qui interviennent pour parler des vraies choses. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. À très vite!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.